Il y a quelques semaines de cela, j'ai reçu un message d'Estelle, de l'atelier Compostel. Il disait « Canon ce podcast, si vous voulez rencontrer Amandine, je pense qu'elle en sera ravie. Sa vie est un roman, elle adore les artisans et donne toujours de son temps. » Amandine est architecte d'intérieur et directrice de l'atelier Compostel à Paris. Et après quelques échanges, le rendez-vous était pris. Pour ce tout nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui, grâce à son métier, met en lumière les artisans et artistes dont chacun de leurs gestes rend possible un projet et la construction d'un univers. Amandine Marotto est architecte d'intérieur et directrice de l'atelier Compostel. J'aime beaucoup le nom qu'elle a choisi. Il invite à la contemplation, au chemin que l'on décide d'emprunter pour créer pour soi un univers mieux préparé et aligné avec nos aspirations et inspirations profondes. Et c'est ce qu'Amandine transmet très bien à travers les projets qui lui sont confiés. Pour chacun d'entre eux, elle prend le temps de s'inspirer des envies de ses clients, mais aussi de la mémoire du lieu pour écrire une nouvelle histoire d'intérieur. Oui, Amandine aime écrire les espaces. Pour elle, le pouvoir des mots est très important. Comme elle le dit si bien, dans la beauté, il y a de la poésie, de la philosophie, tout ce qui permet de comprendre et d'écrire un intérieur. Au départ, Amandine est avocate, puis au fil des années, elle se dirige vers l'architecture. Depuis petite, elle est sensible au beau, sous toutes ses formes, à travers la lecture, la poésie ou encore l'écriture. Elle veut raconter et transmettre de jolies histoires à travers la beauté des matériaux, des objets et des espaces qui lui sont confiés. Pour cela, elle s'entoure de son équipe et des meilleurs artisans et artistes. Elle va chercher le savoir-faire là où il est. Elle est en quelque sorte la narratrice d'un dialogue entre toutes les mains qui vont travailler sur un seul et même projet. Décorer son chez-soi n'a finalement rien de futile. Il permet justement de créer son propre espace en lui offrant une seconde vie et à son image. Toucher la matière, voir le mobilier, les objets durables et de qualité choisis avec soin, dégage une émotion particulière pour celles et ceux qui confient leur projet à l'atelier Compostel. Vous allez le voir dans cette conversation, Amandine est passionnée par son métier et nous transmet le sourire aux lèvres, ses inspirations, nous parle de ses plus beaux projets, de ses artistes et artisans phares. Si vous êtes intéressé par de nouveaux créateurs ou à l'affût de nouvelles tendances, Amandine vous partage ses coups de cœur avec beaucoup de générosité et de poésie. Nous avons enregistré cette interview un matin frais de cet automne. Amandine était de passage à Bruxelles et nous avons profité de cette occasion pour nous rencontrer. Elle m'a donné rendez-vous avenue du Roi, au domicile de son ami Thomas, galeriste, à Bruxelles. Je suis un peu en avance, alors j'attends patiemment sur l'avenue devant l'adresse indiquée. Au coin de la rue, j'aperçois une femme élégante, vêtue de noir, talons aiguilles et veste en cuir. C'est Amandine qui, avec un large sourire, vient à ma rencontre. Une amie de Thomas nous accueille chaleureusement dans son joli appartement. Mobilier et déco soignés, pièces en enfilade typiques de l'architecture bruxelloise, un puits lumière depuis la cuisine et qui traverse toute la pièce. C'est d'ailleurs la première étape d'un projet d'architecture, comprendre comment faire circuler la lumière. Quelques photos prises avant de commencer l'interview, micro installé sur une jolie table en noyer, café servi dans des tasses asymétriques, l'interview peut commencer. Je m'appelle Isaline Nicole et vous écoutez J'aime quand vous souriez, épisode 19. Bonjour Amandine.
Bonjour Isaline.
Je suis ravie de te rencontrer ici à Bruxelles, chez Thomas, qui est galeriste à Bruxelles. Et si tu veux nous en parler un petit peu d'ailleurs.
Oui, absolument. Alors déjà, c'était un grand plaisir de te recevoir chez Thomas.
Oui.
Que je remercie. J'avais le projet initial de te recevoir à sa galerie. Et en fait, il nous a proposé d'être chez lui pour que l'on puisse enregistrer non seulement au calme, mais en fait, dans un environnement qui propose les installations que l'on crée pour nos clients, qu'il crée pour les visiteurs et clients de sa galerie, qui s'appelle La Peau de l'Ours, et qui est dans le bâtiment Rivoli, qui est un bâtiment emblématique de Bruxelles, brutaliste, extrêmement intéressant, où vous pouvez retrouver quasi exclusivement des galeries d'art. Et c'est un appartement classique de Saint-Gilles,
oui,
avec tous ses superbes codes architecturés, ses moulures, ses grands volumes, et une interprétation qu'il en a fait très contemporaine. Donc, merci Thomas, et merci aussi à Ambrine qui nous a gentiment ouvert. Voilà, une fois de plus, l'art, c'est une passerelle, oui, entre entre des galeries, des artisans, des artistes, des archis, des scénographes. Voilà, je crois que ce matin illustre assez bien le pouvoir de l'art.
Oui, c'est vrai. Et Ambrine, qui est aussi styliste, donc qui est aussi dans le domaine artistique. Donc, c'est vrai que c'est
le beau n'a pas de limite.
Exactement, le beau est partout. alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Avec plaisir. Je m'appelle Amandine. J'exerce le métier d'architecte d'intérieur, de décoratrice et de curatrice d'art. Ça fait plusieurs... en même temps, et en tout cas, tout ça crée un écosystème et une constellation qui me va bien. J'aime bien dire que mon métier, en fait, c'est de rendre tangibles des imaginaires. Mmh. Quel que soit le volet de notre travail, qui est d'ailleurs plus une vocation qu'un travail, il y a cette matérialisation nécessaire de ce que l'on va nous confier. Au cœur de l'architecture intérieure, évidemment, il y a les lieux, puisqu'on a la chance d'avoir la responsabilité de lieux que l'on va prendre en charge et que l'on va transformer pour leur donner une nouvelle matérialité, une nouvelle vie et y inventer une nouvelle façon de recevoir, de travailler ou de vivre selon les propos. Mais c'est vraiment en cours, en tout cas, la façon dont on pourrait parler à tous tes auditeurs de ma vision du métier d'architecte d'intérieur, en tout cas, et de curateur d'art.
Et il y a aussi dans ton métier quelque chose de l'ordre de la transmission, en fait. Enfin, la continuité, faire de quelque chose, une continuité, de transmettre aussi un art et un art vivant.
La transmission est un vaste sujet.
Ouais,
ça pourrait être l'objet d'un podcast.
D'accord.
Parce que dans l'architecture comme dans l'art, la notion de transmission est extrêmement importante et ça me fait penser à une discussion que j'avais avec Jean-Baptiste, le fondateur de La Chance, qui est une marque qu'on aime énormément à l'Atelier Compostelle, en plus d'avoir les Copernic, les mêmes RP. Pour moi, la transmission, la durabilité, elle est dans la qualité. Elle est dans l'exigence du choix de la bonne pièce, plutôt que dans l'accumulation. Et je crois beaucoup plus dans l'œuvre ou l'objet durable, parce que ça va être le bon bois, le bon marbre, manufacturé de la bonne façon par les personnes qui ont le geste de la main qui permet ce savoir-faire et cette transmission et cette transformation peut-être un jour, plutôt que dans d'autres façons de concevoir la durabilité qui peut être des cycles de vie, de destruction, de reconstruction. Moi, je crois plus dans la qualité qui alors, va avec l'exigence de beaucoup de travail, de beaucoup de préparation, de beaucoup d'échanges et beaucoup d'exigence et d'un coût. Mais on pourra y revenir, dans l'art et dans l'artisanat et dans l'architecture, il y a une énorme différence entre ce qui est cher et ce qui est coûteux. Ce qui est beau est nécessairement coûteux, mais c'est le coût de l'excellence, du partage, de la transmission. Ce qui est cher est toujours trop cher, même si c'est un euro.
Oui, ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir architecte d'intérieur ?
C'est une bonne
question.
Qu'est-ce
qui s'est passé ?
Non, c'est souvent des rencontres et des histoires de vie. Ma marraine a une fille aînée qui s'appelle Clarisse et qui était déjà chez M. Moser à l'époque à Singapour lorsque nous discutions de ce que je ferais en parallèle de mon métier d'avocat ou plus tard. Et il me semblait que dans le métier d'architecte intérieur, il y avait la matérialisation de tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire de trouver une vocation, d'avoir un métier qui n'a en fait aucune limite. C'est complètement 360. Nos journées, elles sont un pont permanent entre le vocable de l'artisanat, l'exigence de la logistique, l'excellence et la qualité du temps que l'on va partager avec les équipes et nos clients. On a aussi bien du matériau existant ou à développer, et un moment de rencontre avec des éditeurs, quels que soient les registres. La chance de rencontrer et de voir des lieux qui sont souvent hors du commun, et même lorsqu'ils sont un peu communs au départ, de les transformer. C'est vraiment un métier passion, même s'il y a plein de volets qu'on ne mesure pas lorsqu'on le perçoit de l'extérieur. En tout cas, je crois que le switch, il a vraiment été... je ne sais pas si j'étais la meilleure avocate, probablement pas, et mon charisme, il n'était pas... Enfin, j'avais autre chose à faire et une voix à écrire et une influence à avoir sur l'époque dans laquelle je vis, beaucoup plus forte à travers un parcours d'architecte d'intérieur. Et j'ai choisi d'essayer il y a une dizaine d'années maintenant, et je crois que après 10 ans, on est au temps de la maturité et on se rend compte que la voie était la bonne et qu'on a désormais une voix à porter. Et je te remercie de m'inviter et de donner la parole à des artistes, des artisans et d'autres architectes, parce que porter une voix dans nos métiers, je crois que c'est aussi désormais une responsabilité où on va amener sur notre chemin et avec nous tous ceux qui font et qui rendent possible nos idées. Donc merci, j'en profite, à nos clients, aux artisans, à tous ceux qui font l'écosystème Compostelle aujourd'hui.
Oui, c'est ça, les mettre en lumière, et ça c'est vrai que c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, on vient beaucoup quand même à l'artisanat, aux choses bien faites. Il y a eu un moment où c'était un peu moins dans les années 2000. Est-ce que tu vois cet engouement ou
Alors, je pense que les esthètes et les personnes qui ont les moyens de leurs missions ont toujours soutenu l'artisanat. Ouais. Et heureusement, et ça a permis la création de grandes collections, ça le permet encore aujourd'hui. Ça permet la matérialité d'idées et la création, et ça permet d'écrire en fait aujourd'hui l'histoire de l'art de demain, je l'espère. Là où je te rejoins totalement, c'est que je trouve qu'on voit à travers les salons et les foires un retour, enfin l'arrivée en fait d'acteurs très importants et un nombre de propositions de qualité très importantes, dans le sens où on a des parcours en galerie, en artisanat, en atelier, qu'ils soient Paris, Bruxelles, le monde entier. On va à la rencontre du savoir-faire, et les savoir-faire viennent dans des lieux de présentation, de rencontres. Il y a énormément de biennales. Oui. Vraiment, il y en a encore en ce moment, que ce soit sur la photo, que ce soit dans les murs de villes importantes comme Arles, que ce soit dans le Grand Palais, que ce soit... Il y en a un dans Bruxelles aussi. Et à la fois des parcours qui sont construits autour de l'art et de l'artisanat, et des foires dans un lieu fixe qui font sortir des murs les artistes et les artisans. Et ça, c'est très présent ces dernières années. Donc là, je te rejoins totalement. Ensuite, les ambitions, elles vont par étapes parfois. Et il existe aussi encore, bien sûr, dans l'archi d'intérieur, la décoration, du jetable. Mais le jetable devient plus joli. Donc j'espère que ça tire, que l'excellence tire tout le monde vers le haut. Et quand l'industriel, dans le mauvais sens du terme en tout cas, copie la beauté, ben ça amène tout un peu plus loin et ça forme l'œil. Et j'espère que toute personne qui ne peut pas forcément aujourd'hui ou qui ne fait pas le choix aujourd'hui de l'artisanat, de la recherche de beauté, se forme déjà l'œil en fait, parce que la société et le monde lui proposent. Il y a quand même une chance exceptionnelle que l'on a, c'est les plus beaux musées à ciel ouvert sont gratuits et s'appellent des galeries.
Ça, c'est vrai. Pousser la porte d'une galerie, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait tous les jours, mais dès qu'on peut, c'est vrai. D'ailleurs, on découvre des artistes qu'on ne connaît pas, à la différence si on va dans un musée ou ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est
non, mais totalement. Important. Il n'y a pas juste un cartel, il y a toujours un galeriste.
Ouais.
Et si on ne sait pas comment y entrer, allez voir cette personne à son bureau, dites-lui que vous êtes néophyte ou que vous avez eu un coup de cœur pour une œuvre que vous voyez présentée, et est-ce qu'ils veulent bien vous en parler. Et je ne connais aucun galeriste qui n'accepterait pas avec plaisir de vous parler d'une œuvre, parce que finalement, une découverte un jour, ça peut créer des relations forever, et ça ouvre l'esprit. Et quand on aime la beauté, qu'on aime l'art et l'artisanat, qui pour moi en fait sont très similaire, le bonheur de parler d'une personne en qui on croit, rien que ça, en fait, c'est très fort. Et je crois que c'est un service aussi qu'on rend aux galeristes, de leur dire je ne sais pas, peut-être que je n'achèterai pas, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, ça m'interpelle, même si je ne comprends pas. Mais quelque part, ça vient conforter ces choix curationnels. Et donc, ça conforte un engagement qu'ils ont pris auprès d'un artiste.
Et alors, pour devenir architecte d'intérieur, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu as repris des études?
Alors, je dirais qu'il y a plusieurs possibilités. Ça dépend, en fait, déjà, est-ce qu'il y a une recherche d'un titre d'architecte d'intérieur? Et dans ces cas, oui, clairement, il faut reprendre des études, aller à l'école et être diplômé pour ça. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, y compris en reconversion. Mm-hmm. Donc, entre 2, 3 ans et 5 ans, vous pouvez devenir architecte d'intérieur. Il y a le volet décoration aussi qui est une manière de commencer avec des écoles qui sont plus légères et qui apprennent certains fondamentaux quand même. Mon avis est que le diplôme, même si je suis française, je pense que c'est nécessaire, mais qu'il y a énormément de personnes qui ont un vrai talent et qui peuvent le former en s'entourant. en ayant une équipe autour d'eux qui vont savoir faire ce qui voilà, n'est pas leur compétence première,
ouais.
qui vont diriger leur entreprise avec eux. Mais parfois, avoir un regard et un talent, ça, c'est une bonne manière de commencer. En revanche, il y a une forme de responsabilité très importante. À partir du moment où on nous confie un budget, un projet, un bâtiment, ne pas s'engager dans une voie que l'on ne maîtrise pas. Mais moi, je crois beaucoup dans la force de l'entourage. Donc, pour devenir un chef d'intérieur, un, se former, deux, s'entourer, trois, avoir le regard ouvert en permanence et collaborer avec les bonnes personnes en étant très transparent sur la façon dont l'équipe est constituée.
D'accord. Et c'est quelque chose qui vous a toujours... toujours intéressée depuis toute petite. Tu étais déjà sensible à l'architecture ou à l'art.
Alors, j'ai grandi dans un univers dans lequel l'esthétique n'était pas la recherche prioritaire. En revanche, dans laquelle on lisait beaucoup.
Mmh.
Et donc, dans les échanges en famille, il y avait énormément ce sujet de la poésie, des mots. Moi, j'aime écrire les espaces. J'aime écrire en général, d'ailleurs. Le pouvoir des mots est très important. Et dans la beauté, il y a ça aussi. Il y a la poésie, il y a la philosophie, il y a tout ce qui permet de comprendre et d'écrire en intérieur. Donc, j'ai beaucoup lu sur l'art et l'architecture.
Ouais.
J'ai beaucoup vu d'intérieur à travers les mots. Et on passait beaucoup de temps dans des musées. Donc, j'ai eu une approche de l'art très, très proche et très éloigné à la fois, très proche parce qu'on voyait des lieux, parce qu'on lisait des cartels, et très éloigné parce que je ne connaissais pas les gens qui faisaient ce monde-là. Et j'ai découvert petit à petit, j'ai eu une révélation au musée Calvé, qui était dans la rue de mon collège, où je vois, en fait, c'était dans un escalier très classique en soi, un rayon de lumière, et à ce moment-là, je suis frappée par le pouvoir de l'architecture. Et je comprends que, je comprends, enfin, je crois que mon corps en a porté des stigmates quasiment, J'ai perçu le pouvoir des lieux. Et quand on vit dans un intérieur qui nous porte, qui symbolise quelque chose, qui parfois nous réconforte, parfois nous rend du souffle, parfois nous inspire, ça fait quelque chose de nous. Et j'aime bien dire que décorer comme habiter, ça n'a rien de futile. Je l'ai entendu quelque part, je crois que c'est une conférence chez Chanel. On est ce que l'on voit de nous et on est les lieux dans lesquels on reçoit et dans lesquels on est reçu. Et pour faire un parallèle à l'archi, je me souviens d'entretiens quand j'étais avocat où en fait mon associé, celui de référence, était sur son grand bureau statutaire avec une chaise nettement plus haute que la mienne. Et il me recevait en face de ce bureau. Je ne pouvais pas être dans les meilleures capacités. Physiquement, j'étais assise plus bas.
Ouais.
Donc... le dialogue, il ne peut pas se créer par la confrontation. Je sais que dans le podcast, le format implique qu'on soit en face.
Mm-mm.
Mais moi, j'aime le dialogue. J'aime m'asseoir au restaurant sur des angles.
Ah, oui, oui.
J'aime voir les personnes de profil. En fait, je trouve que nos métiers, c'est ça aussi. C'est de comprendre comment on peut vivre, ce que l'on peut apporter à travers un lieu. Et souvent, c'est ce pas de côté. Je fais beaucoup de digressions, mais c'est tout ça qui m'a amenée à ce métier-là, en fait. J'ai vécu des expériences qui m'ont amenée à l'art, à l'artisanat, à l'architecture, petit à petit, c'était pas prévu. Mais ça s'est conforté et ça s'est confirmé. Et je crois que les 10 dernières années montrent qu'avec toute l'équipe qui travaille à l'atelier, on arrive à créer quelque chose qui est une identité, un registre qui contribue à apporter à notre environnement professionnel.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est... ces scènes de vie qui, parfois, nous amènent à avoir un déclic ou se dire, bah oui, en fait, c'est ça. Ce sont souvent des moments ou des fulgurances qui nous font réaliser qu'on est fait pour faire une chose ou un métier, quoi.
Oui, parfois, nos imaginaires perçoivent avant que nos corps ne l'incarnent et ne transforment l'idée en projet.
Et alors, comment est né ensuite l'atelier Compostelle?
Alors, pendant que j'étais à l'école, un de mes anciens clients m'a appelé pour trouver un bâtiment, le rénover. Maintenant que j'étais architecte d'intérieur, autant dire qu'après une semaine que j'avais plus ou moins raté parce que j'avais été malade, j'étais pas tout à fait architecte d'intérieur quand même. Mais il m'a dit, écoute, tu es une bonne avocate, tu seras une bonne architecte, en fait, te débrouille-toi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien, je suis vraiment en mode projet. Donc, j'ai demandé à des personnes de l'école qui avaient plus d'expertise et d'expérience que moi, de travailler ensemble.
Mm-hmm.
et à un ingénieur qui était dans mon environnement amical de lancer ce projet avec moi. Et puis, quand j'étais avocat, je représentais un acteur majeur de la commercialisation de bureaux pour entité personne. Donc, je les ai appelés. Et en fait, tout le réseau, on en parlera probablement encore, mais le pouvoir du réseau, une fois de plus, ouais, a fait qu'en quelques semaines, on a monté une équipe. Et c'était parti. Alors, après, quelques années après, il y a eu des changements plus importants parce que j'ai vraiment repris toute seule la direction de ce qui est devenu Atelier Compostelle. Mais c'est parti de ça. C'est parti d'un coup de fil de « Bah, Amandine, on y va ?»
Mais c'est génial.
Et moi, j'y vais.
Voilà. Et puis, c'est, je pense que tout de suite, tu t'es dit « Bah oui, je me lance dans l'aventure.
» Bah, ça conforte une décision, une voie. Et parfois, on a besoin de signes de la vie. Là, j'avais celui qui me fallait.
D'accord. Et alors, pourquoi ce nom, Atelier Compostelle ?
Alors, quand j'ai commencé mon métier, ma conviction était qu'il fallait créer la meilleure agence et pas forcément être soi-même la meilleure archi d'intérieur. Et Compostelle, c'est cette notion de se relayer, d'avancer. En fait, on sait où on veut aller. On sait à peu près comment on y va. Ouais. En tout cas, on est très préparé. Et le métier d'archi d'intérieur, c'est énormément de préparation. Les projets, ils sont réussis parce qu'on ne se lance pas dans un chantier sans une extrême préparation qui laisse la place à l'ajustement, mais pas à l'approximation. Et Compostelle, c'est ça. On part très préparé. Et puis, on allège, on épure, on rencontre, on s'arrête, on continue, on accélère. Mais c'est en soi un vrai chemin de vie, de questionnement et de révélation.
Ouais.
Et l'archi d'intérieur, c'est ça aussi.
D'accord, c'est une belle symbolique. Et donc, tu as aujourd'hui, donc, tu as l'atelier Compostelle. Et vous êtes combien dans cette... vous avez...
Alors, j'allais dire, avec toutes les personnes qui nous entourent, on est très nombreux. Mm-hmm. C'est une constellation. On a deux bureaux. Un bureau à Paris, un bureau à Luxembourg. Je l'explique parce qu'il me semble important d'avoir des équipes plus près de chacune des zones géographiques principales de nos projets. Je ne crois pas au 100% à distance, hein, même si j'adorerais faire des projets dans le monde entier, à condition systématiquement sur place. Et c'est le cas dès qu'il y a un projet qui est en dehors de Paris ou Luxembourg ou Bruxelles. On co-traite avec un bureau local. Donc en interne, on est une dizaine, notamment parce qu'il y a depuis 2 ans un volet aménagement menuisé qui nous permet de dessiner et de créer avec les agenceurs directement chez nous.
D'accord.
Les cuisines, les menuiseries, et de dessiner beaucoup plus, ce qui n'empêche pas de continuer à travailler avec des gens qu'on aime beaucoup. Mais on a voulu vraiment avoir ce service beaucoup plus intégré. Et c'est la suite de l'atelier d'ailleurs, c'est de plus en plus d'intégration. On a parlé de la curation d'art, on parlera peut-être des collaborations avec des marques sur la direction artistique, sur de l'objet. À un moment, je pense que sur ce chemin-là, il y a aussi le fait de compléter l'atelier Compostelle avec un volet édition. Donc, on a le volet art, on a le volet agencement menuisé et on aura probablement ce volet édition. Il y a un temps pour tout, mais je dirais que dans l'année à venir, j'espère que ça sera quelque chose qu'on pourra matérialiser.
D'accord. Ah oui, donc, c'est assez complet, en fait. Et je pense que les clients qui viennent chez toi, est-ce qu'on appelle ça un client ? Enfin oui, ce sont des clients.
Je crois que ça reste une dénomination commune, mais... C'est vrai que c'est pas un terme que nous on utilise beaucoup.
Oui, c'est ça. Oui.
On nous donne un mandat pour un bien, pour un lieu, pour un projet. Et c'est vrai que le terme de client, je trouve un peu commercial, mais.
Oui.
C'est vrai que c'est pas un mot qui est très présent.
D'accord. D'accord. Bon. Et comment tu définirais le style ou ton style ou ta signature en tant qu'architecte?
Ah, moi j'aime bien cette question en fait. Ouais. Beaucoup d'architectes répondront qu'ils n'ont pas de style mais qu'il faut le renouveler en permanence. Moi je pense que c'est O'Toniel qui dit ça par rapport à son art, qui est qu'en fait il a vraiment un univers qui est très fort, à partir duquel il continue en permanence à tisser des univers, à créer, à pousser des curseurs parce que l'identité est forte. Et donc on a vraiment une signature. Plus que style, je dirais qu'on a un répertoire esthétique qui est d'abord en fait une architecture artistique. Et pour faire ça, on s'appuie sur ce que j'aime bien appeler les mémoires poétiques. Je crois que c'est Kundera qui avait développé cette conception d'aller chercher ce qui touche l'humain pour créer le beau.
C'est très beau. Ouais.
Notre signature, elle est faite de ça. D'univers artistiques qui vont toucher les mémoires poétiques, dans l'esthétique. Ça se matérialise par des lieux qui sont très forts, très contrastés, dans lesquels on va créer des formes de respiration. C'est des lieux qui vont être graphiques, qui vont être très dessinés, qui vont avoir une part d'imperfection voulue. C'est-à-dire qu'on aime la patine du temps. Donc moi, les matériaux qui se craquellent, qui se patinent, qui marquent, qui laissent visibles les traces de la vie, ça fait vraiment partie de la signature compostelle. Les petites taches, la petite patine, le trait de main. Là, on est sur une très belle table en bois chez Thomas. Je vais essayer de ne pas faire de traces avec cette magnifique tasse.
Okay, well.
Mais en vrai, moi, j'aime le bois qui va se patiner, qui va porter
les traces de la vie.
Les stigmates du temps
tout à fait.
Et de la vie. Et donc, tout ça, ça fait partie de la signature compostelle. Je peux dire aussi qu'il y a une forte notion d'esthétisme. C'est que nous travaillons pour des clients qui sont des esthètes, qui aiment des intérieurs forts et engagés, de la même manière qu'ils vont choisir une pièce de joaillerie, de la même manière qu'ils vont choisir une œuvre d'art, qu'ils vont s'habiller ou choisir une voiture. Moi, j'aime les gens qui sont harmonieux, cohérents et qui sont des rencontres. Donc, tout ça fait partie d'un style compostel. Il est clair que il faut venir nous voir avec l'envie d'avoir des lieux qui vont être engagés.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, comment on fait pour venir vous voir? Comment
c'est très
ça
facile.
Passe oui.
En fait, on a un petit élément de langage, mais qui est la réalité. C'est pour un café ou un projet, venez nous rencontrer. Dans le Marais, on est rue de Montmorency. Le bureau est super joli. Poussez la porte et venez discuter. Parfois, c'est juste des gens qui rentrent parce qu'ils ont vu une œuvre d'art en devanture.
D'accord.
On a une grande
D'accord. Donc, on peut venir.
Ah, c'est tout à fait ouvert. Les rendez-vous, c'est plutôt sur rendez-vous, mais poussez la porte, demandez-nous la référence d'une œuvre, d'un carrelage, d'un magazine. On est là pour. On a des métiers passion, on a une chance immense de vivre dans des endroits qui sont splendides. Venez y passer un moment avec nous. Et pour un projet, évidemment, c'est encore plus intéressant. Et Luxembourg, c'est pareil, la porte est moins visible, mais c'est aussi un rez-de-chaussée d'une grande maison. Les deux bureaux sont conçus comme une galerie d'art et un lieu de vie, comme un boudoir d'esthète.
Ouais.
Et il y a dans nos bureaux tous les artistes, les artisans que l'on aime. Donc, il y a énormément d'œuvres d'art, ça c'est clair. Ça fait partie de nous, qui sont croisés avec les matériaux. Nos matériothèques, elles sont à la fois un espace galerie, matériothèque, un petit coin bureau, parce que moi j'ai de bureau nulle part, je me mets là où il y a une place et je vais vers les gens. Donc c'est très facile. Vous pouvez nous contacter par les réseaux sociaux.
D'accord.
Ou passer à Luxembourg ou à Paris dans nos lieux. Et on va bientôt lancer d'autres expériences. Il y a certaines choses qui existent déjà. Pour des personnes en reconversion, on crée des petits déjeuners seconde vie. On en fait 4 par an. On les annonce sur les réseaux. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à cette occasion-là si l'univers de l'archive vous intéresse.
D'accord.
Et sinon, on va lancer aussi dans les expériences des dîners dans lesquels j'animerai un temps avec un artiste et un galeriste.
Ah, c'est super ça.
Chez moi, autour de l'art et du pouvoir que la beauté a à créer des relations et de l'envie surtout que j'ai de permettre des temps suspendus, des temps où il y a des rencontres qui n'étaient pas prévues, des rencontres qui peuvent apporter beaucoup, quels que soient nos univers. Donc, il y a tout ce volet-là autour de l'atelier pour nous rencontrer. C'est très facile. En plus, on adore les rencontres. Donc, venez nous voir. Et évidemment, nos bureaux et nos agences d'archi n'existent que parce qu'on nous confie des lieux et des projets.
Ouais.
Donc, c'est évidemment indispensable. On a la chance d'avoir la confiance de nos clients, même si ce mot-là, encore une fois, n'est pas celui que je préfère. Mais on a la confiance de personnes qui incarnent leurs ambitions et nous, on va les porter. Donc, merci pour tout ça. Et venez nous voir, c'est avec plaisir.
Alors, justement, comment ça se passe quand on vient vous voir? Moi, je viens demain chez Atelier Compostelle. J'ai un projet. Comment ça se... En fait, quel est le processus de la création en fait, du projet?
Alors, c'est très simple parce que les process sont ultra calés. On a beaucoup tâtonné ces dernières années pour avoir la meilleure approche possible. Qui soit la plus qualitative et la plus juste à toutes les étapes. Donc, avant de travailler ensemble, on va avoir un temps informel.
D'accord.
On va encourager chaque personne qui a envie de nous rencontrer. Alors, évidemment, à écouter des podcasts, il y a beaucoup de presse aussi autour de l'atelier et de mon travail, à regarder, déjà pour s'assurer que l'univers leur plaise. Parce que si chaque projet, évidemment, est différent, il y a une écriture.
Ouais.
Et notre façon d'écrire les projets, Ça, c'est... Moi, je suis garante de cette identité et mon travail, d'ailleurs, à l'atelier, c'est de maintenir un fil conducteur, c'est de maintenir un univers dans lequel vont s'inscrire les projets. Donc, très facile. Première étape, contactez-nous, appelez-nous, écrivez-nous un email, envoyez un message sur les réseaux. On vous reçoit toujours au bureau parce que c'est important de prendre un temps en dehors des projets et de se rencontrer.
Ouais.
Nous, on pense vraiment que l'architecture intérieure, elle est intrinsèquement liée à des personnes.
Ouais, ça, c'est sûr.
Il faut avoir envie de travailler ensemble, ça commence par là. Si ce premier rendez-vous vous plaît et que vous avez envie de continuer avec nous, on fait un call de cahier des charges. Donc, quel est votre projet? Quels en sont les plans? Où il se situe? Quelles sont vos ambitions? Il y a forcément un timing. On voit les lieux au moins en photo et en visio. Quand on peut, on se déplace, mais à ce stade, ce n'est pas tout à fait indispensable. On vous fait une offre. Déjà pour une esquisse, qui commence par la phase d'avant-projet sommaire, quand on est archi, disons.
D'accord.
Donc, on fait une offre pour une première étude, pour caler les choses. Vous avez un premier plan, une première mood board, un fil conducteur de projet et une estimation macro-budgétaire.
Mm-hmm.
Si on valide l'esquisse, qui peut avoir une première, une seconde, une deuxième version, ensuite seulement, on va rentrer dans l'avant-projet détaillé.
D'accord.
Mais caler l'esquisse, pour nous, c'est de plus en plus important. Mmh. On voit les lieux, bien sûr, et ça l'esquisse sur un projet d'appartement parisien, disons, d'environ 200 mètres carrés. On rend l'esquisse sous un mois. Et donc après cette esquisse, ensuite, on rentre dans le dur du projet et dans chacun de ces détails. Et là, donc, c'est classique, c'est penser les fonctions des lieux, parce qu'un lieu qui est bien pensé dans sa corporalité, j'ai envie de dire, il sera joli. Un projet qui est joli, mais qui est mal pensé dans ses fonctions, il y aura toujours un déséquilibre. Donc, on va travailler sur les plans, sur des 3D blanches, sur les plans électriques, tous les plans techniques, les climatisations quand il y en a, la sonorisation au sens acoustique comme musical, la matérialité, la décoration, l'art. Et l'art, il vient très tôt, d'ailleurs. On aime bien intégrer très tôt les artistes dans les projets. Donc, c'est un déroulement, j'allais dire, après, très classique d'archi d'intérieur. Mais ça commence par ce temps informel qui est peut-être un peu signature aussi de l'atelier. Mais on doit se rencontrer avant quoi que ce soit.
Pour voir un peu pour connaître les envies, en fait, de la personne, voir un peu ce qu'elle recherche.
Exactement. Connaître les envies, avoir un début de cahier des charges et expliquer la façon dont on travaille.
Et est-ce que la personne arrive aussi en disant « moi, je veux travailler avec tel artisan ou tel artiste, ou c'est vous qui proposez
Alors, ça peut arriver, je suis ravie quand c'est le cas.
Ouais.
Et je pense que ça arrive de plus en plus aussi parce que le fait qu'on soit l'architecte du monde de l'art, ça donne une coloration particulière à notre travail et à notre identité. On sait en venant chez nous que l'art va être présent.
Mm-hmm.
Et donc, c'est vrai que nos clients qui ont déjà des œuvres parfois importantes nous choisissent aussi pour ça. Parce qu'on sait qu'on va partager tout ça. Du temps en galerie, des recherches d'œuvres d'art. Mais c'est pas 100% des personnes que l'on rencontre. Mais on peut venir, tout à fait.
D'accord.
Avec une demande particulière. Maintenant, l'identité de l'atelier fait que quand on nous contacte, on a quand même déjà une idée de ce que l'on est. La plupart des projets arrivent parce qu'on a été recommandé. Et donc, les personnes qui viennent travailler avec nous, en fait, nous ont déjà choisi. Et on a...
D'accord.
C'est ou l'atelier ou personne, en fait. Si vous travaillez dans cet univers-là, avec ce rythme, avoir accès à ce type d'entreprise, avoir cette relation privilégiée aux artisans et aux artistes et aux galeristes, il y a assez peu, je crois, d'autres propositions, en tout cas aussi fortes, chez qui ce soit aussi intégré et aussi lié depuis aussi longtemps. Donc ce choix, en général, il a déjà été un peu mûri.
D'accord.
Et on le voit assez vite, en fait... Les personnes qui viennent nous rencontrer connaissent nos projets et viennent avec des projets de référence qui vont être une pierre sur laquelle on va s'appuyer pour créer leur projet. Mais chacun va être écrit pour eux. Et le début, d'ailleurs, des projets, c'est beaucoup d'écriture. Moi, je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup. Et on a besoin de ce temps incompressible de la recherche en début de projet. Il y a différentes manières de créer des mood boards. Nous, la nôtre, elle est lire des livres.
D'accord.
Pour créer l'histoire d'un lieu, je vais... faire des recherches sur l'histoire de la maison ou du bâtiment, ou sur le quartier, sur l'environnement. Parfois, c'est sur une porte cochère, c'est à partir d'un détail. Enfin, il y a toujours un point de départ, en tout cas, qui est le contexte du lieu, et le lieu dans son contexte.
Mm-hmm.
Parce que si on peut transformer un intérieur, absolument pas transformer ce qu'on voit depuis la fenêtre.
Ouais.
Et donc, le lien intérieur-extérieur, il est essentiel.
D'accord. OK. Quelle est la place que tu accordes dans tes projets à tout ce qui est matière, lumière, couleur? Comment ça se passe? Comment tu arrives à déterminer quelle matière tu vas utiliser, quelle couleur va aller pour telle ou telle pièce? Comment ça se passe?
Alors là, tout ça fait le projet, parce que tout ce que tu viens de décrire, c'est ce que l'on voit.
D'accord.
Donc, la matérialité et la polychromie des projets, in fine, c'est ce qu'il reste. Donc, on doit l'intégrer tôt, parce que le temps de recherche est important. On va créer des couleurs. Alors, on a nos propres collections de peintures qui sont éditées par Robin, qui est l'éditeur luxembourgeois de couleurs. Donc, on a 10 couleurs et on en sort 2 nouvelles, d'accord, un blanc et un noir.
OK.
Donc évidemment, c'est un univers que l'on a créé, dans lequel on va piocher. Mais les lieux, quand on les visite, en fait, on les voit en couleur, on les voit en lumière. Et les premières étapes, d'ailleurs, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va faire circuler la lumière. Et en conséquence de la circulation de lumière, on va positionner les espaces. Je vais prendre un exemple. Un lieu de réception dans lequel la cuisine peut être centrale parce que des temps forts vont se passer autour d'un chef qui vient cuisiner. Évidemment, on va la mettre dans un endroit qui est lumineux au temps où sont reçus les invités.
D'accord.
C'est-à-dire de midi à 14h ou plutôt en fin de journée, plus que tôt le matin, parce que tôt le matin, l'espace n'est pas ouvert.
Ouais.
Un des lieux signature de l'atelier devient le fait de créer des fondations philanthropiques. C'est des lieux qu'on aime faire en ce moment, que l'on a pu développer. Enfin, c'est vraiment une grande chance ces dernières années. Et qui, je crois, vont devenir, dans la singularité de notre signature, des espaces où sont reçus des mécènes, qui réinventent l'art de recevoir, parce que s'y croisent des mécènes, les équipes des fondations, mais aussi les artistes, que ce soit des musiciens, des peintres, parfois des sportifs, qui sont soutenus et qui donc vont venir y travailler ou s'y entraîner. Et puis des moments de qualité qui vont être créés autour des lieux. Donc, tout ça existe grâce à la matérialité. Il y a des étapes dans les projets, dans la PD, donc dans le projet détaillé, il y a des moments où on doit poser la matérialité. On l'a en tête bien avant, mais on va la faire, nous, sur un temps qui est très fort, c'est le temps de présentation du mock-up. Donc c'est un rendez-vous dans nos bureaux. Donc on a regroupé tous les échantillons que l'on a retenus pour le projet.
Okay.
Mais avant ça, on n'a rien montré. Donc c'est la surprise.
D'accord.
C'est le moment où le client va découvrir... La pierre, on aime beaucoup les quartzites. Donc, par exemple, une quartzite cristal au pink qui va aller avec un panneau de cuisine, mais qui va être le bon panneau de cuisine, qui aurait été prototypé, avec un rose antique, des miroirs avec un fond bronze, mais une découpe particulière, et les éliges qui vont habiller la cheminée, et un échantillon du tapis que l'on a fait développer pour le salon, et le chêne qui peut être... Bon, j'aime bien le chêne des marais, par exemple, avec des tonalités particulières, mais c'est des choses qui ont une vraie histoire. Qui ont vraiment, qui sont tombés, qui ont maturé dans des marais, qui ont une nuance un peu bronze et qu'on peut reproduire. Donc la matérialité, elle est présente depuis le début, mais elle est présentée sur un temps très fort et presque très scénographié, parce que ça doit marquer l'esprit du client à ce moment-là. L'usager du bâtiment, l'habitant, la personne qui va expérimenter le lieu va à un moment ressentir quelque chose. Il ne faut pas oublier que la matérialité, et c'est important que tu en parles, c'est ce qu'on va toucher, c'est ce que l'on va voir, c'est ce qui va développer l'émotion. Je fais une petite digression qui me paraît illustrer notre travail. L'émotion et la sensation que l'on veut faire vivre, c'est ce qui permet de créer. Mais ensuite, c'est la création qui va déclencher l'émotion chez l'usager final. Donc, il y a deux temps, en fait. Il y a ce qui, chez l'architecte, vient susciter la création, et il y a ce que la création va susciter ensuite, chez les personnes auxquelles on transmet les lieux. Donc il y a un double dialogue grâce aux matières, et c'est beaucoup de recherche. Moi, j'ai la chance de développer ça pour l'atelier, c'est tout ce temps partagé avec les artisans. Parfois, on développe des matières pour lesquelles on n'a pas le projet encore, mais on sait qu'on va les proposer un jour, et parfois on les propose, et ce sera pour le projet suivant. Mais on a développé une matérialité et une matériothèque très forte. On a développé un champ des possibles qui fait que quand le bon projet rencontre le bon artisan, le bon moment, en fait, le matériau, il est pour nous assez évident. Donc, c'est très fort. Et c'est une vraie chance, hein, je dois le dire, d'avoir que des intérieurs nous soient confiés, qu'on va pouvoir porter, dont on pourra prendre soin, grâce à tous ces beaux matériaux qui vont les rendre plus sensibles. Donc ça, oui, c'est un sol, c'est une couleur, mais tout ça, c'est un sol, en fait. C'est pas d'abord un carrelage, une entrée, puis une salle de bain, puis... C'est tout en un.
D'accord.
L'harmonie d'un intérieur, il est,
oui.
Il est un vrai fil conducteur. C'est vraiment... on essaie de regrouper sur une quinzaine de matériaux forts tout ce qui va être décliné. C'est différent en hospitality, qui est un domaine sur lequel on est moins présent, dans lequel les lieux sont tellement importants qu'il y aura plutôt une quarantaine d'échantillons. Dans nos projets, je dirais qu'il y a une dizaine de matériaux forts.
D'accord. Et justement, vous êtes sur quel type de projet? Vous êtes plutôt sur tout ce qui est appartement ou aménagement de.
Je dirais que chez nous, ce qui est plus important à expliquer, c'est le persona de notre client.
Ouais.
Je crois qu'on est l'architecte des esthètes et nos clients. Alors, je vais dire ce mot-là, mais comme j'en ai parlé tout à l'heure, il vient dans ma tête. Mais je dirais que les personnes qui nous font confiance, elles vont diriger des fondations philanthropiques, elles vont diriger des fonds d'investissement, des cabinets d'avocats. Elles vont en tout cas avoir un quotidien qui nécessite d'avoir une vie privée exigeante et discrète, d'avoir des lieux de réception exigeants, artistiques et discrets.
Ouais.
Et ça va vraiment être ça. Après, que ça se matérialise par une résidence privée, que ce soit une grande maison de vacances, que ce soit une maison de famille, que ce soit un appartement parisien, que ce soit le siège d'une fondation, que ce soit des bureaux ou un lieu retail, les personnes sont les mêmes.
D'accord.
Ce sont des personnes qui ont des passions, qui les portent
et, voilà.
Et qui soutiennent la création. Dans les projets à venir, j'ai très envie d'être choisie pour des lieux qu'on appelait retail par le passé, mais en fait qui sont des lieux au service d'une marque dans lequel on reçoit.
D'accord.
Et qui créent des expériences. Moi, j'ai vraiment une certitude, c'est que le retail va devenir de l'hospitality, que les fondations et les lieux de travail ont l'opportunité de réinventer la façon de travailler et de recevoir encore et encore.
Oui, tout à fait.
Et mon curseur, il va être là. C'est... Oh là, la typologie de lieux, c'est vraiment les gens pour lesquels on travaille.
Oui, mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui. Enfin, on a envie de se sentir bien dans un espace qui est...
En fait, l'espace, il porte un propos.
Ouais,
et les choix architecturaux, ils sont un engagement. Alors, chez nous, ils sont forts. Et je crois que c'est définitivement ce que chacun devrait faire, c'est de s'entourer de gens, évidemment, mais de lieux qui portent un message. Les lieux, ils disent quelque chose de nous, qu'on le veuille ou pas.
Tout à fait. Ah oui, c'est sûr. Oui, oui. Il y a une part d'identité. Et justement, comment tu fais pour... Enfin, tu l'as déjà un peu expliqué, mais vraiment pour transformer l'identité de la personne qui vient te voir jusqu'à son lieu de vie. Parce que ce n'est pas évident quand on ne le connaît pas.
De vie ou de vie au travail. On vit. De toute façon, c'est un lieu de vie, ça c'est sûr.
Ouais.
Que ce soit un lieu de vie où on reçoit, un lieu de vie où on a sa vie privée, un lieu de vie où l'on développe sa propre activité professionnelle. De toute façon, c'est le lieu d'une vie. Et ça, je te rejoins complètement. Alors, il y a différentes façons de faire, parce que le lieu, de toute façon, crée un élément de contrainte autour duquel on va créer, et le lieu, il crée un contexte. Ensuite, j'écoute beaucoup.
Ouais.
Et je crois que ça commence par là. Je ne demande pas forcément ce que l'on attend de nous, parce qu'en fait, en vrai, je vais l'entendre parce qu'on va me le dire, mais je le sais. Les cahiers des charges, je vais les écouter parce qu'ils sont importants, mais en fait, les cahiers des charges, au départ, c'est toujours les mêmes. Et c'est normal, parce que ce qu'on a dans la tête et ce qu'un architecte peut développer, tout le monde ne le sait pas. Et donc, le temps de l'écoute est extrêmement important. J'aime bien partager des déjeuners, aller voir une exposition, échanger des livres, des podcasts aussi, avec les personnes qui nous confient leurs intérieurs. Et ça va commencer comme ça.
D'accord.
Je dois comprendre, et là, c'est vraiment ma responsabilité, sur tous les projets sur lesquels il y a des enjeux importants. Comme dans tous les bureaux, il y a des projets pour lesquels l'équipe est complètement autonome et elles ont la même méthode. Mais ma présence est requise sur des temps de passage un peu obligatoires, sur des curseurs raccourcis, parce que c'est quand même moi qui prends le risque in fine du projet. Et donc, je les conforte, ou je pousse les curseurs jusqu'à un certain niveau. Mais la création et la définition de l'identité, c'est passionnant. Ce temps de, où on a un début de projet, où on a le temps de phosphorer, de réfléchir, de... c'est encore le temps où l'imaginaire se développe avant de le matérialiser. Donc ça commence comme ça, par écouter, je regarde comment on s'habille, ce que l'on porte.
Oui.
J'aime bien parler de mode aussi.
Mm-hmm.
J'aime bien parler bon, d'art, évidemment. Ça, c'est tellement présent chez nous que de toute façon, c'est un vecteur de communication. Et prendre un café dans une tasse un peu atypique qu'on fait là. Ouais. Les tasses de Thomas sont les tasses d'une artiste danoise, je crois, qui sont en fait coupées en deux.
Ouais.
Et c'est très beau, c'est assez peu pratique. En revanche, c'est un sujet de conversation.
Ouais, c'est
et
ça.
Donc, dans les projets, on aura toujours aussi ces objets qui vont être un objet de conversation. Et le projet, la création, l'idée, elle doit susciter, une fois que nous, on est partis, encore et toujours de la conversation, le plaisir de se poser, d'avoir un angle de vue et de se souvenir des temps qu'on aura passés ensemble. Mais créer, c'est fantastique et on a la chance immense d'avoir énormément de ressources qui sont là, qui sont l'artisanat, qui sont des lieux, qui sont des livres, qui sont des poèmes, qui sont tout ce qui peut nous amener sur l'idée. Au moment quand on a l'idée, on déroule le fil.
Ouais.
L'idée, parfois, il faut un peu de temps pour qu'elle
arrive. Oui, c'est ça. Et ça en revient à ce que tu disais au début, c'est toutes les histoires aussi de... Bah de rencontres, mais là en l'occurrence de rencontres avec la personne pour voir, pour cerner vraiment au mieux ce dont elle a. Bah
comme on vient à notre rencontre, on a l'immense chance d'avoir des rencontres qui sont provoquées et dont on doit mériter la confiance.
Ouais, c'est
donc
ça.
Cette rencontre provoquée, c'est d'abord de comprendre aussi comment on est arrivé jusqu'à nous, parce que ça dit aussi quelque chose. Et ce que l'on aime a priori de notre travail, c'est qui a donné envie de nous contacter. Ensuite, à nous de prendre en charge le sujet et de le développer et de le matérialiser.
D'accord. Et concernant les artisans, les artistes avec lesquels tu travailles, je pense que tu ne vas pas aimer ce mot, mais je vais le dire quand même, tu as un panel d'artisans avec lesquels tu travailles le plus souvent, ou comment ça se passe ?
Oui, alors c'est vrai que j'aime bien l'idée de constellation, parce qu'en fait, c'est un ensemble de personnes qui vont travailler ensemble et qui vont s'enrichir mutuellement et qui vont souvent révéler une capacité, un talent encore plus important que ce que les uns et les autres pourraient avoir tout seuls. Et c'est vrai que la confiance et la loyauté sont des éléments importants chez nous. Donc les gens qui nous accompagnent, ils nous accompagnent souvent depuis longtemps. On enrichit cette constellation, mais sans se priver de ceux qui étaient là depuis le début. Et grâce à qui les projets existent.
Ouais.
Chaque projet qui est livré par l'atelier. Et j'ai essayé de faire très attention à ce que les personnes qui nous confient un projet en aient vraiment conscience et mesurent à quel point chaque petit joint, chaque mètre carré de parquet qui aura été poncé, chaque élément de vitrail, c'est chaque geste d'un être humain qui rend possible l'ambition du projet. Donc on a les mêmes personnes. Et j'aimerais tous les citer, même si je sais que ce ne sera jamais possible. Mais oui, ce sont les mêmes et on progresse tous ensemble. C'est aussi un élément signature, probablement, d'être entouré d'une constellation de gens de talent.
Tout à fait.
On mérite les gens qui nous entourent. Et c'est une occasion de les remercier, que ce soit les agenceurs, que ce soit les mosaïstes, que ce soit les vitraillistes, que ce soit les parquettistes, que ce soit les staffeurs, que ce soit les peintres, les électriciens... Tout est complexe. L'architecture intérieure, c'est un métier très difficile parce qu'il y a beaucoup de techniques au service de l'esthétique, mais aussi du confort de vie. Et à l'intérieur, il est réussi aussi parce que l'intérieur est au bon endroit. Quand on circule, la lumière fonctionne de la bonne façon. On est assis au bon endroit. Lorsqu'il y a le petit rayon de lumière pour le café de 14h, ça, c'est aussi très signature. C'est un petit espace, un grand miroir, un fauteuil devant, le rayon de soleil à 14h.
J'ai envie d'y être d'ailleurs.
C'est vrai que l'appart ici est canon, mais il n'y a pas de lumière après ça.
Non, aujourd'hui.
Mais c'est un bon exemple d'intérieur réussi. C'est qu'il fait très gris, mais en fait, on s'en sert bien et on n'a pas froid. La quantité d'œuvres d'art bien choisies, bien positionnées, le confort d'échelle, le fait qu'on touche un bois et qu'on soit à côté de céramique et que la lumière réponde avec le laiton des bougeoirs, en fait, c'est un intérieur qui réchauffe, je trouve.
Tout à fait. C'est vrai. Et les artisans sont partout, vous allez les chercher partout en France ou c'est plutôt localisé
Oui, c'est partout en France et même, j'allais dire, dans le monde parce qu'on commence à travailler avec une artisan qui est au Maroc et qui fait des tables en zellige et des luminaires. Bon, c'est les premiers qu'on lui commande, ça a l'air super beau et j'ai vraiment hâte de voir comment ça se développe. Et j'ai envie de la soutenir parce que son projet d'entreprise est juste génial. On a une collection de carreaux de ciment qui est fabriquée, qui, enfin, que l'on a dessinée, qui est éditée par As de Carreaux et qui est fabriquée aussi au Maroc. Les ateliers sont protégés, c'est des environnements de travail qui sont de qualité et qui permettent tout ça.
D'accord.
On a, pour donner quelques exemples, Timber Taylor, là on est à Bruxelles, bah, ils sont à quelques minutes d'ici. Mm-hmm. Ce sont voilà, des gens chez qui on peut s'appuyer, qui nous créent des agencements qui sont extrêmement forts. Il y en a énormément comme ça, et c'est l'âme du vitrail à Paris avec qui on crée des vitraux magnifiques. C'est Vanessa, notre tapissière, qui est dans la même rue, donc c'est juste fantastique. Avec qui on travaille sur les textiles, sur les rideaux. C'est tous les éditeurs qui ont leur création. Je pense à Maison Thévenot, par exemple. On sort des tapis qu'on a dessinés et qui sont fabriqués par Sybille de Taverneau. Enfin, c'est de l'artisanat aussi. C'est fait en Inde, et parce que c'est le savoir-faire qui est là-bas. Mm-hmm. Je crois qu'il ne faut pas être... C'est fait en France et c'est fait à Paris, c'est fait en Belgique, c'est fait à Bruxelles, c'est génial. Mais en fait, c'est pas grave si on va chercher le meilleur là où il est. Je pense au luminaire chez Barovière et Tozzo à Murano. Ils sont là-bas. Je vais pas réinventer quelque chose qui existe. En revanche, je sais que leur expérience, leur expertise permet de créer ce dont nous, on a besoin pour nos clients et pour nos projets. Et parfois, c'est à Paris. Je pense à un ami, Octavio Amado, qui crée des luminaires. Grâce à son atelier parisien, on peut amener nos clients, on peut voir ensemble la forme, la couleur, la matière. On peut développer du prototypage. C'est vrai que la proximité crée une facilité dans le prototypage. Ça, c'est indéniable. Y a vraiment cette... aller voir un vitrail, aller voir le dessin du vitrail, aller choisir chaque élément comme une tesselle sur une mosaïque, ça, c'est un atout. Oui, je ne peux pas dire le contraire, c'est indéniable. Avoir les staffeurs qui sont... à quelques minutes et qui vont pouvoir venir dans une réunion de chantier, ça n'a pas de prix. Avoir Jolie M.M. qui va nous faire des trash falls et qui, n'étant pas trop loin, va pouvoir déposer des échantillons. Enfin, c'est plein de gens auxquels je pense et je suis navrée pour tous ceux que je n'aurais pas cités parce qu'ils sont nombreux et que leur présence est vraiment précieuse à nos côtés. Comme les ateliers Muquet, comme, voilà, au fur et à mesure, j'essaierai de glisser quelques noms. Là, et je vois Studio Biscuit sur la table. Bon, bah, c'est un studio de céramiste qui fait de la céramique, de l'objet d'art, du banc... des céramiques pour des piscines.
D'accord.
C'est un jeune duo et qui, voilà, on a envie de les soutenir, évidemment. Donc, c'est tous ces gens qui sont très forts dans leur domaine, qui incarnent l'excellence sur un domaine spécifique. Et nous, on doit créer cette constellation, mais pour eux aussi, en fait, parce qu'ils peuvent vivre grâce au fait que les projets qui nous sont confiés ont l'ambition d'intégrer du beau et le geste de la main. Et grâce à eux, ben, les projets peuvent exister. Et c'est sans limite. Ça peut être de la technique avec Multizone qui va nous scénariser la sonorisation des intérieurs. Voilà, enfin, les limites, il n'y en a pas, en fait. C'est le textile, c'est la matière, c'est les pierres de Marmorie Bertrand, par exemple, à Luxembourg, qui est une des plus vieilles entreprises familiales du Luxembourg, qui va nous trouver des pierres exceptionnelles, qui comprend que je ne veux pas massacrer la terre. Et donc, si on trouve des tranches qui existent, qui sont sur un côté dans une carrière et qui permettent de faire un projet, ben on va choisir d'abord ça. En fait, l'importance de travailler avec les mêmes personnes, d'enrichir cet écosystème, c'est que nos envies, elles sont claires.
Ouais.
C'est que notre envie, c'est de préserver la planète, c'est de créer de la durabilité, des intérieurs et des objets et des matières qui vont durer dans le temps. Et donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir me proposer des matériaux à base de pétrole, ils ne vont pas me proposer... des lampes qui vont se casser en 30 secondes, ils ne vont pas me proposer un bête film laiton sur une matière de mauvaise qualité. Parce qu'acheter pour jeter, ce n'est vraiment pas notre signature.
Non, et puis là encore, c'est une relation que tu as réussi à construire, en fait, avec
ces personnes. Mais elle se mérite, je crois qu'elle se mérite, parce que la chance, par exemple, d'aller voir des luminaires en cours de fabrication avec le verre soufflé. Je pense à Jérémy Maxwell, on adore son travail. Son atelier à Paris est exceptionnel. Quand on le voit souffler le verre, qu'on est assis sur le fauteuil à côté avec le petit chien qui saute partout. Et lui, c'est une épreuve physique. Et ça permet de montrer le coût de l'unicité. Mais le prix de l'excellence, il est réel. Et moi, je me dis, si on pouvait rajouter un zéro partout, en fait, sur tout ce que font les artistes et les artisans, mais ils le méritent tellement, en vrai.
Tout à fait.
Et je crois que les architectes d'intérieur le méritent aussi, d'ailleurs. On aime tellement nos métiers qu'on ne les valorise probablement pas assez. Et c'est une discussion que j'ai parfois avec des confrères. Moi, je veux vraiment, en fait, être une ambassadrice pour tous ces gens qui nous entourent et grâce à qui les projets prennent une valeur, qu'elle soit sentimentale comme matérielle, hein, mais extrêmement forte. Le prix de l'unicité, c'est l'exigence de travailler et la chance d'avoir accès aux gens qui savent faire. Et ils sont très bons, donc très demandés. Et je les remercie mille fois d'accepter nos projets.
Et alors toi, quand tu as un projet, quelles sont tes sources d'inspiration en fait ? Comment tu t'inspires ? Enfin, tu as déjà plus ou moins répondu, mais est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration ?
Je peux donner des exemples peut-être, ça permet de matérialiser tout ça. Je pense à une maison en Bretagne que l'on commence, qui historiquement est à Saint-Briac, dans un alignement de maisons qui ont été construites par des marins.
D'accord.
C'est une région, la Bretagne, qui a été fortement développée, incarnée par ses voyages au long cours. Et notamment à la recherche des épices. Alors la famille Rollinger aujourd'hui l'incarne magnifiquement et ils font un travail fantastique autour de l'épice. Et cette maison, elle est en hauteur dans une rue qui surplombe le contrebas de Saint-Briac. Et donc j'ai écrit un concept autour de la maison des épices. Et c'est une maison qu'on va appeler Kergeder. Kergeder, ça veut dire la vigie. Ça, c'est la maison de la vigie. Parce que sur les bateaux, il y a une vigie. Ouais. Cette maison, d'une certaine manière, elle est un peu la vigie d'un environnement. Et les épices permettent de sentir immédiatement. Je trouve qu'en fait, on sent presque, quand on entre dans ces lieux, un univers, une inspiration, une odeur. L'épice, c'est la cuisine, c'est le partage. Une vie épicée, c'est une vie heureuse, c'est une vie amoureuse, c'est une vie joyeuse. C'est une différence. Mm-hmm. C'est une transmission, c'est quelque chose à raconter. C'est une chromatique aussi, qui va être autour du safran de notre collection pour Robin, de notre nouveau noir qui va s'appeler le noir Nyons. On a créé autour des épices et des olives de Nyons. Donc c'est tout ça qui, pour donner mon inspiration, bah là c'est un lieu, c'est l'histoire d'un village et d'une région, et c'est une envie d'un endroit qui doit être très fort. Je pense à Cléopâtre, un peu épicé. L'épice, ça relève, ça souligne, ça... Donc là, c'est l'histoire d'un lieu. Mon inspiration, c'est tout ça. Et on va le décliner après en architecture d'intérieur. Jusque à des éléments de papier peint que l'on compose avec Le Grand Siècle. Mmh. Vanessa a créé une marque qui est extrêmement forte, qui restaure des papiers peints historiques. Elle les photographie, elle les restaure via la photo et le numérique, et elle les adapte à un monde contemporain. Et donc, on sera sur l'univers des voyages vers le Brésil, sur du damier, sur du noiré blanc, sur des petits pas de côté aussi. Qui sont, moi je vois bien les petits grains de sel et les petits grains de poivre, et ça fait du noir et blanc, et ça fait un joli damier. Et c'est tout ça, en fait, qui porte un projet. Je peux te parler d'un autre projet, qui est une fondation philanthropique, dans un bâtiment Liberty, mais qui avait perdu ses codes. On l'a pris en cours de projet, et la restauration n'avait pas tout à fait permis de récupérer les marqueurs historiques. Donc il y a quand même une mosaïque dans l'entrée qui a été sauvée. Et on a dessiné ce projet autour de son histoire et autour de l'ambition qu'a ce lieu, qui est intégralement tourné autour du mécénat et de la musique. Et donc, on est parti de rythme, de musicalité et l'histoire du lieu pour créer, enfin, pour combiner l'histoire de la personne qui va y recevoir.
D'accord.
De cet endroit-là qui est vraiment un endroit très atypique. Donc, ça se matérialise ensuite dans une chromatique qui est celle d'une partition de musique, qui est sur des teintes ambre, sur des bruns, sur toute une série de notions de pierres précieuses, qui a le graphisme de ce qu'étaient les années 30 aussi, et qui fait la place belle à l'artisanat. Donc on a des tapis de chez Leleu, des tapis de Sylvie Taverneau, qu'on a recolorisés ensemble, c'est pas directement ce qu'on a dessiné. On a des mobilier de Heyman Edition. Okay. On a une très belle pièce d'Arthur Valin. On a sourcé avec Yours. Voilà, c'est tout ça. Il y a des canapés de chez Duvivier qui sont aussi une manufacture française. Il y a un amphithéâtre, en fait, des estrades en bois sur lesquelles on a créé des petites banquettes avec un très beau tissu Elitis et un espace dans lequel il y a un piano autour duquel on a créé une bibliothèque. Avec Kermarek, avec qui on travaille énormément en France et que je remercie aussi pour sa confiance. Il y a des fauteuils de chez Cider. Il y a évidemment des tables de la chance. Donc c'est tout cet univers-là, des œuvres d'art qu'on a choisies, notamment avec Willow & Grove et les suivantes sur lesquelles on travaille avec Marie de Decker notamment et avec la galerie Porte B. Donc tout ça est ce lieu-là, l'inspiration, c'est le lieu, c'est une dame, c'est un univers, et on part de là pour broder, pour décliner, pour composer un résultat final qui doit avoir l'air évident. Et c'est vrai que quand on entre et qu'on se dit, ah oui, en fait, mais ça a toujours existé, parce qu'il y a la juste patine et parce que on fait en sorte que tout fonctionne ensemble, c'est la plus belle des récompenses.
Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et comment est-ce que tu vois aujourd'hui, depuis peut-être quelques années, vraiment un comme je le disais tout à l'heure, on revient aux choses faites, bien faites, à la main, à l'artisanat. Est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus d'artisans qui se mettent qui se mettent à leur compte et qui travaillent?
Oui, mais aussi, et alors ce qui est génial, je trouve, c'est que les artisans travaillent ensemble désormais.
Ouais, ouais.
Moi, ce que je vois, c'est des artisans qui travaillent et qui exposent ensemble aussi. Et ça, c'est vraiment, je vois des salons comme Révélation, par exemple, tout est fantastique, on est au croisement entre l'artisanat d'art, et les espaces sont composés par différentes mains, j'allais dire. On voit plus, en fait, un tisserand d'un côté, du filage de l'autre, de la paille séparément, et puis un tapissier, et puis un agenceur. En fait, les espaces sont scénographiés, ouais, et les artisans présentent leur travail ensemble, et je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire. Parce que le fait de voir les lieux, de voir ensemble, ça donne une incarnation et ça permet d'avoir l'impression de vivre déjà entouré de leur travail.
D'accord.
Et de le contextualiser, enfin de le présenter dans un contexte. C'est difficile d'imaginer un morceau de céramique sur un mur.
Ouais.
On en a autour de nous. Si on ne le voit pas expérimenté et qu'on le voit uniquement dans un atelier, il faut un peu de temps en fait, pour se plonger dans cet univers. Si on voit ensemble les œuvres de différents artistes et artisans, qu'on peut les percevoir, qu'on peut les toucher. Il y a ça aussi. Je crois que l'artisan, aujourd'hui, accepte qu'il y ait une relation physique, j'allais dire presque sensuelle, à son travail. La couleur, elle doit donner envie de voir et aussi de toucher, en fait. Elle conditionne quelque chose. Et je ne l'ai pas inventé. Moi, j'adore Ettore Sottsass et je suis en train de lire The Poetry of Things, qui est un ouvrage dédié à sa vie, qui est presque une fable, alors qu'en fait, c'est vraiment son histoire. Et il a une approche de la couleur et du design qui est très intéressante. Le design, pour lui, c'était une façon de questionner, de débattre de notre société. Et je crois que c'est notre responsabilité et celle des artisans. Et je suis convaincue qu'ils l'ont compris et qu'ils arrivent à le montrer aujourd'hui, que tout ne peut fonctionner qu'ensemble. Et un immense, encore une fois, bravo à tous les organisateurs de Biennale. Et je crois que je pense à quelqu'un d'ailleurs, Jean-Marc Dimanche, qui est le curateur notamment d'une biennale luxembourgeoise de main de maître, je crois, oui, soutenue par la Banque centrale du Luxembourg. Alors c'est quelqu'un de génial d'ailleurs, qui est souvent à Bruxelles et que j'ai connu grâce à Thomas, qui soutient les artisans et les artistes et qui sait créer des lieux et qui sait avoir une curation de foires d'art. Une curation, comme Élanie Jambline d'ailleurs aussi, désormais à la Art Fair de Luxembourg, elle a complètement modernisé ce que Alex Grading a eu l'excellence de promouvoir et de lancer. Ça fait partie des Art Fair qui commencent vraiment à exister. Et il y a un espace pour les jeunes galeristes. Et dans les foires, les biennales, on voit désormais vraiment des espaces dédiés à la jeune génération, aux galeries émergentes, à l'artisanat, y compris dans des foires d'art. On n'a plus uniquement de l'art moderne visible, on a vraiment de la création contemporaine. Et ça fait le pendant, ta question, avec mon engagement auprès des artistes, qui est d'être l'ambassadrice de la création contemporaine. Je soutiens vraiment les artistes émergents, c'est ma passion, rencontrer des gens, les soutenir, les faire travailler, leur donner des cartes blanches quand on peut les avoir, des résidences quand c'est possible. Et tout ça pour reboucler avec ta question de départ, qui est oui, il y a de plus en plus d'artisans, de plus en plus de reconversions. On a une collection d'art de la table qui s'appelle Garance, qui est fabriquée par Claire Royer, qui est potière. Bon, c'est connu quand j'étais avocat et qu'elle était juriste chez Rothschild.
D'accord.
Mon métier a évolué. Elle s'est formée à la céramique, à la poterie. Et elle m'a donné accès à un univers. Je ne serais jamais allée fabriquer une tasse. Mais ensemble, on a dessiné des théières, des tasses, des plateaux. Enfin, quel bonheur quand on reçoit au bureau ou chez nous de prendre un café dans une tasse qui a été faite par la main de quelqu'un, qui est mon ami, que j'ai dessiné, qui doit paraître simple alors qu'on a choisi chaque millimètre et chaque couleur et qu'on a fait développer les couleurs à partir de pigments, qui, le noir notamment. On a vraiment fait créer cette teinte pour qu'elle puisse l'appliquer ensuite sur sa poterie. Cette richesse-là, toutes ces reconversions, toutes ces personnes qui ont le courage d'essayer de vivre de leur talent, de leur art, et qui parfois commandent un univers. Je pense à Hugo Falaise, par exemple, que j'ai connu lorsqu'il était assistant d'un artiste, designer artiste avec qui on a travaillé, et qui un jour nous a montré ce qu'il allait faire lui, pour lui, qui est plus sur le tissage. Mais en fait, il a un vrai talent, il avait appris de quelqu'un d'autre, et tout ça, c'est hyper riche. Mais il faut du courage, parce que ce sont des univers dans lesquels quelle est la valeur du temps, quelle est la valeur d'une œuvre d'art. J'en parlais il y a quelques jours avec Marie Dedecker à un petit déjeuner, et on se posait cette question-là de cette œuvre-là, quelle est sa valeur. C'est jamais assez, en vrai, parce que la valeur d'une œuvre, c'est la valeur de la création, et c'est la valeur que l'on offre en temps pour de la recherche. Donc, tous ces artisans-là, plus on peut les soutenir et plus ils sont nombreux, mais de qualité aussi, parce que, et ça je pense que c'est un point qu'on doit vraiment avoir, c'est qu'il y a énormément d'artistes et d'artisans. Moi, mon engagement, il est auprès d'une petite vingtaine. On doit choisir sa ligne esthétique, sa ligne de recherche, et moi je ne veux vraiment mettre en avant que des gens qui maîtrisent parfaitement leur médium, qui sont capables de le faire évoluer, qui ont un engagement fort et aussi qui ont une forte personnalité. Parce qu'on voit quand même que dans l'adhésion à l'art, la personnalité de l'artiste, elle est indissociable de son travail. Et parfois, il y a des œuvres qui me touchent, mais il y en a pas, la deuxième ne va pas me faire la même façon du même artiste, et donc ça ne va pas être mon chemin.
D'accord.
Le chemin de l'artisanat d'art et de l'art, il est de vouloir y revenir. C'est comme avec une personne, on peut avoir une conversation agréable, mais le lendemain, on va la voir.
Oui, oui.
Et il y a des gens qu'on a croisé quelques minutes et on a juste envie de se poser, de discuter, de les écouter, de les regarder. Et qui sont des rencontres qui changent une vie. Moi, je crois dans ces rencontres, en fait, qui changent la vie, y compris avec des œuvres d'art. Se poser face à une œuvre, y revenir, je crois que c'est comme ça qu'un choix est juste. Et à chacun de se faire son chemin. Et il faut oser, il faut prendre des engagements différents. Et c'est là où les galeries sont très importantes, je crois. Ils font des choix engagés et ils soutiennent les artistes qu'ils représentent, les artistes, les artisans. On a vraiment ce biais complet. Donc, nombreux, oui. Excellents, un peu moins. Et avec une forte identité et la capacité à se renouveler, à s'inscrire dans le temps long, l'histoire le dira. Notre engagement, le mien en tout cas, et notre responsabilité, c'est d'essayer de leur donner l'opportunité de faire partie de l'histoire de l'art de demain.
Oui, mais c'est ça. Et pour toi, quelle est la différence entre, s'il y en a une, entre art et artisanat ?
Alors, lexicalement, il y en a une.
Oui.
Maintenant, dans mon approche des choses, dans les deux cas, la main est présente. Dans les deux cas, l'artisan comme l'artiste va donner une identité, va réaliser au moins en partie lui-même. Il va avoir la capacité ensuite à développer un atelier autour de lui. Les artistes, les artisans ont des assistants, des équipes parfois très très importantes. Mais dans les deux cas, leur regard, ils ont développé un regard, un geste, une technique. Et ils s'inscrivent dans un mouvement où ils l'auront initié parfois. Et ils vont avoir une influence sur le monde qui les entoure. Pour moi, c'est vraiment des points très forts à relier. Ensuite, on a vraiment cette idée dans l'artisanat d'être plus sur des petits nombres de pièces, d'être sur cette notion de fait main. Il y a un côté presque plus de terre, de matière, de ce que l'artiste va développer différemment. Mais pour moi, c'est les mêmes personnes et je les fais travailler ensemble. Je les fais réfléchir ensemble. Chacun choisit comment il se définit. Mais je crois que cette convergence est de plus en plus forte parce que la dénomination des artistes et des artisans aujourd'hui est très souvent artiste d'art, artisanat d'art.
Oui.
Et donc le lien est de plus en plus fort. Je crois que les galeristes l'ont bien compris aussi. On voit leur matérialité, on voit que, je vais prendre quelques exemples, chez Porte B par exemple, Charlotte va faire dialoguer Marguerite Bornhauser, qui est une photographe que j'adore, dont j'ai la chance d'avoir des œuvres et qui fait mon portrait pour la communication de curation d'art, qui travaille avec Marion Flamand, qui elle travaille le verre, et le compagnon de Marion qui est ébéniste, qui lui fait les cadres de leurs œuvres.
D'accord.
Mais en fait, c'est une œuvre d'art.
Ouais.
Il y a une photographe, il y a une artisane et il y a un artisan. Pauline Guerrier, chez Romero Paprocchi, par exemple, aussi, a cette matérialité extrêmement forte. Et cette imbrication, je pense, c'est vraiment l'avenir. Pierre et Florent, qui sont deux photographes aussi, avec qui ils travaillent également en Porte B, et leur agent Marion, qui est quelqu'un de génial aussi, que tu pourrais rencontrer, elles les accompagnent pour qu'ils travaillent leurs photos, mais ils changent le support d'impression. Et désormais, ils créent eux-mêmes les caisses américaines dans lesquelles sont proposées leurs œuvres. Mais c'est un travail sur le bois qui n'était pas leur travail de départ. Okay. Il y a une notion d'ébénisterie, il y a une notion, on peut parler de miroir par exemple, ici il y a un miroir de studio Biscuit, ils ne sont pas vitraillistes, ils ne sont pas miroitiers, ils créent un univers, donc un cadre en céramique autour du miroir.
D'accord.
Je crois que tout ça répond à ta question, et l'artiste et l'artisan, c'est le monde de demain, c'est l'artisanat d'art.
Ok. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un projet depuis que tu as commencé en tant qu'architecte qui t'a le plus marqué ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fière ?
Alors, il y a une chose dont je suis fière, c'est que, bon, tant pis, on va reprendre le nom de client, mais mes meilleurs amis ont été mes clientes au départ.
D'accord, ouais.
Je crois que ça dit ce qu'est Atelier Compostelle et ce que je suis. C'est qu'on vient travailler avec nous pour nous confier un lieu, mais pour vivre aussi quelque chose d'assez fort, qui va rester. Je suis très fière d'avoir pu créer des clubs d'art dans des univers qui sont plus corporate, parce que je suis convaincue en fait que l'art, c'est un dialogue, et que le sachant et le néophyte en fait ne sont plus les mêmes personnes quand on est dans un vernissage, que ce dialogue avec la vie, avec la société que permet l'art, en fait, c'est le seul médium, je crois, avec la musique, mais la musique étant un art, en fait, ça s'imbrique. Disons qu'à très court terme, c'est vrai qu'un projet dont je suis vraiment fière, la Fondation Philanthropique, la dernière que l'on ait livrée, d'abord, la personne qui m'a introduit dans ce projet-là est une amie très proche et je suis fière qu'on l'ait réussi pour elle. C'est un projet qui nous a donné la possibilité de revaloriser un lieu, de faire travailler des personnes qui ont énormément de talent et de voir des choses exceptionnelles, d'avoir accès à des lieux, d'avoir accès à des instruments de musique, par exemple. Voilà, c'est juste extrêmement touchant quand on les voit parce qu'ils ont une histoire très, 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 très forte. C'est un lieu qui a une esthétique très forte aussi et qui, à mon avis, est une milestone pour l'atelier, parce que ça peut vraiment être un projet credential, dans le sens où je suis convaincue que une grande partie des projets importants qu'on va faire à l'avenir auront une partie d'hospitality, d'art de recevoir que l'on a réinventé, je crois, avec ce projet-là. Et quand il aura un peu de visibilité, il accompagne une vraie évolution. Et c'était le projet de la maturité. Il y en a beaucoup que j'aime énormément, auxquels je suis attachée. Une maison art déco à Luxembourg qu'on est en train de terminer aussi. Pareil, parce que c'est une réinterprétation des années 20, mais de façon contemporaine, avec un regard actuel, très féminin, qui regroupe tout ce que l'on aime et qui est au service de la famille qui y vit. Donc ces projets-là, je dirais que c'est peut-être deux, trois des projets dont j'ai envie de parler parce qu'ils me semblent être des projets de maturité.
D'accord. Ok. D'accord. Et je ne sais pas, mais parce que j'ai du mal à m'en rendre compte, mais combien de projets tu as simultanément ?
Alors en fait, le nombre de projets dépend aussi de leur taille. Je dirais qu'on essaie de n'avoir en tête par architecte d'intérieur qu'un maximum de 5 projets, considérant que c'est déjà beaucoup, mais ça veut dire qu'il y en a un qui est au tout début, 2 à 3 projets qui sont très actifs, et un dernier qui est en train de se terminer.
D'accord.
Il y a une petite particularité aussi, c'est que mes équipes travaillent toujours en binôme.
D'accord.
Il y a toujours un double regard, enfin plus toujours le mien évidemment, mais au moins un double regard. Mm-hmm. Ça permet de prendre le relais dans des phases où l'un ou l'autre est plus occupé. Et puis certaines personnes dans l'équipe ont un regard et une appétence pour des phases de projet aussi un peu différentes. Donc, en parallèle, oui, c'est vraiment un maximum, je dirais, par architecte. Et après, l'atelier a vocation à grandir. Donc, il n'y a pas de limite.
Ouais.
Et moi, le projet intéressant qui arrive va me permettre d'ouvrir les portes à un nouveau talent. Donc, à condition que l'ambition du projet nous permette de densifier l'équipe. Moi, il y a quelques personnes avec qui j'ai envie de travailler aujourd'hui et que j'adorerais avoir à mes côtés. Je ne peux pas forcément tout de suite avoir ces deux, trois personnes-là intégralement avec moi, mais je compte sur les futurs projets pour leur donner la chance d'y travailler.
D'accord.
Et c'est vrai que dans ma tête, il y a beaucoup de projets. Après, je suis très impliquée sur certains. Je vois tout et mon regard est posé sur chacun des projets. Dans le quotidien, moi, je peux être impliquée fortement que sur 4 à 5 projets. Au-delà, ma présence serait trop superficielle. Mais l'équipe est géniale et les architectes d'intérieur de l'atelier sont des gens qui ont un vrai regard, une vraie culture, une vraie curiosité. Et on a tous beaucoup de chance de travailler ensemble. C'est une chance immense
c'est vrai.
D'être heureux de te lever le matin, tous les jours, quelles que soient les difficultés que l'on peut rencontrer par ailleurs, quels que soient les aléas de la vie, quelles que soient les souffrances parfois que chacun peut porter, ou au contraire les immenses joies qui vont s'entrechoquer. Il y a cette chance et cette confiance. Il n'y a pas un jour où je me dis, mon Dieu, ce truc-là, je n'en ai pas entendu parler depuis 10 jours, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas entendu parler parce qu'il ne se passe rien ou parce que tout roule et qu'on va juste me faire un petit SMS avec une photo en me disant, ouais, regarde, super, la cheminée a été posée, le bâti est construit et on a choisi cette céramique, on est ravis, la teinte est faite sur mesure pour notre client, parfait, génial, on y va. Enfin, voilà. J'adore recevoir des images de la marbrerie me disant, regarde, tous les quartzites sont découpés, on va les poser la semaine prochaine. Tout ça, c'est possible parce que les projets nous donnent la chance d'avoir du temps à y consacrer.
Ouais, ouais.
Donc, voilà, je préfère te répondre par architecte.
Oui, bien sûr.
C'est plus juste, je pense, que sur une globalité.
D'accord. Et justement, est-ce que vous avez développé avec l'atelier Compostelle des partenariats pour des collaborations pour
Alors, en fait, on a beaucoup de chance. C'est qu'on a eu assez tôt des collaborations. La première était avec Beauregard Studio, qui malheureusement n'existe plus, mais c'était vraiment à la fois une personne et une marque qui avait une très forte identité et qui avait beaucoup de courage d'ailleurs. Aurélia a vraiment créé quelque chose, j'espère que la suite sera aussi belle, parce que cet univers-là, il était remarquable. Et elle nous a confié le dessin d'une collection qui s'appelait Les Cabochons Compostelle, qui était 4 dessins d'inspiration art déco, mais inspirés par des lieux.
D'accord.
Par des dallages d'église, des dallages de grandes maisons, par du tissage, que l'on a matérialisé. Donc, c'était notre première collaboration. Et c'est une collaboration qui, à l'issue de Beauregard, a été reprise par As de Carreau et qu'on a déclinée sur une collection de céramique. Ensuite, on a eu la chance de travailler avec une personne fantastique, Jean-Gabriel Cosse, qui est l'expert français de la couleur, qui m'a demandé de créer des couleurs pour, à l'époque pour Perrault. Donc, ça a été la première collaboration couleur. On a créé une dizaine de teintes inspirées de fleurs séchées sur le chemin de Compostelle. Après, Perrault a changé d'orientation et on a eu la chance de pouvoir créer des couleurs pour Robin. Et donc là, on s'est inspiré de la Provence et on a créé 10 couleurs. En fait, je voulais vraiment... Chacune de nos collections est très resserrée. L'idée étant que tous les univers que l'on crée pour différentes marques puissent fonctionner ensemble. Donc ces 10 couleurs, elles sont par exemple... Le Mistral gagnant. Le Mistral gagnant, c'est un bonbon. Mais le Mistral, c'est aussi la réalité de la vallée du Rhône quand on descend en Provence et qui a ces ciels violets, rouges en arrivant chez moi. Et ça m'émeut beaucoup d'en parler parce que c'est cette teinte-là, moi, je l'ai toujours eu dans la tête. Espèce de bleu un peu violet. Et le fait de pouvoir d'avoir pu la créer, de la matérialiser et de l'intégrer dans des intérieurs, c'est toujours très touchant parce que chaque fois que je vois ce bleu, je sais à quoi je pense. Je pense à la même chose. Là, on sent un blanc Montmajour. L'abbaye de Montmajour est un lieu qui me touche beaucoup, dans lequel il y a de superbes expositions d'art, d'ailleurs, notamment en parallèle de Arles et des photos, principalement de la photo, évidemment.
Ouais.
C'est un lieu qui est lié à la Provence, qui est lié à des souvenirs, qui est lié à des gens. Je crée comme ça, en fait, ces collaborations. Il y a le rameau d'olivier, mais on pense, en fait... Quand on s'assoit dans un champ d'olivier avec un super bon vin de Provence, une Syrah de préférence, du fromage de chèvre, de la bonne huile d'olive. Et en fait, on peut juste imaginer qu'on est en train de... On a un petit plaid et on refait le monde comme dans un champ de lavande. Et la vie, c'est ça. Et donc, notre création, elle sert à ça. Donc, il y a cette collaboration avec Robin autour des couleurs, la collaboration avec Claire Royer sur l'art de la table, avec Garance, la collaboration avec Sybil de Taverneau, qui va être annoncée bientôt, peut-être après la sortie du podcast, je ne sais pas exactement, tu me diras.
Oui.
En tout cas, les échantillons sont prêts, le premier tapis est prêt, l'histoire de la collection est prête, et on rend hommage aux femmes artisans d'art, avec un dessin qui est très graphique, qui reprend les teintes de nos peintures. Donc, il y a du safran, du mistral, du cèdre bleu et blanc montmajour. Tout ça sur du tapis tissé à la main. La collection s'appelle Nancy. C'est un hommage à ma maman aussi, qui s'appelle Nancy. Et un hommage aux rayons de lumière sur des vitraux en Provence. Il y a tout ça qui s'entremêle et qui se matérialise sur un tapis. Des dessins que l'on a proposés à Maison Thévenon. Et voilà, on est en train de discuter avec Vincent sur les premiers rendus tissus, donc je spoil pas trop, mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que en vrai, ça va arriver dans pas très longtemps. Et d'autres idées, une collection qui sort pendant Archie at Work début novembre avec Uptile, qui est la marque d'édition de As de Carreaux.
D'accord.
Qui nous a demandé de dessiner une collection pour eux qui s'appelle Alma et qui s'inspire de Glanum en Provence, d'Amphore, de silhouettes, hein, de bonbons et tout ça, tout ça sur un dessin en noir et blanc. J'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreux à les choisir. Je précise pour le côté pratique, à partir de 10 mètres carrés, vous choisissez vos couleurs. Donc il y a tout ça, on a le choix d'avoir pas mal de collaborations et ça enrichit notre création et ça enrichit la créativité aussi. Et ces collaborations-là, elles se modélisent aussi ensuite sur tout le volet art contemporain, où on demande à des artistes de créer des œuvres pour nos projets, que ce soit des photos, que ce soit du tissage d'art, que ce soit... Voilà, il y a plein de supports différents, du luminaire, etc. Et puis, notre volet des collaborations, évidemment, c'est toutes les marques qui nous confient en fait, des moments aussi, qui nous demandent de parler de notre travail, qui nous demandent de parler d'art, de construire des talks spécifiquement dédiés. Et le prochain, qui a été commandé par des foires d'art, et un talk qui est autour des femmes curatrices d'art.
D'accord.
Je suis absolument ravie de pouvoir porter la femme, la place des femmes dans l'art, en rendant hommage à des curatrices importantes et en donnant notre tonalité particulière. Comment est-ce que les femmes créent des expositions? Comment est-ce que je crée des parcours dans les art fairs d'ailleurs? Comment est-ce que on... Quel est notre regard? Qu'est-ce qu'il y a de singulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ça fait plonger dans les archives. Hein. De l'histoire de l'art, et ça permet de mettre en lumière des femmes importantes. 75% des collectionneurs sont des hommes aujourd'hui. La plupart des œuvres achetées par des femmes sont des petits formats ou des œuvres en dessous de 5000 euros. Je trouve ça dommage.
Mm-mm.
Et j'espère que de plus en plus de mécènes et de fondations portées par des femmes vont pouvoir changer ce paradigme, disons.
Mais c'est vrai que c'est un milieu très masculin, hein.
Mais mon propos n'est pas homme contre femme, simplement, on a besoin de se supporter les uns les autres. Et peut-être que les hommes ont cette capacité, ce charisme à donner confiance aux femmes qui les aiment et qui les entourent. Et on a besoin d'eux. On a besoin de leur confiance, de leur regard. Et ils ont besoin de notre sensibilité, de notre capacité à être totalement autonome, indépendante, mais à faire des choix qui sont engagés aussi. Et tout ça se croise de manière assez vertueuse. Je l'espère,
tout
en tout cas.
Oui.
Et je parle de... On parle de l'artisanat, on parle de femmes et des réseaux. Il est clair que l'empowerment des femmes, elle passe par les réseaux d'influence qu'elles se construisent. Et la place de l'artisanat et de l'art, elle passe par les réseaux d'influence que se construisent les artistes. Une partie de mon travail étant de les porter dans ces réseaux-là.
Et justement, tu aussi fais partie d'un réseau qui s'appelle Féminin Pluriel.
En fait, je suis présidente du club parisien de Féminin Pluriel, qui est un cercle d'influence au féminin qui a été créé il y a une trentaine d'années, dans lequel la vocation du réseau est vraiment clairement cet empowerment à travers l'influence. Ça se voit de différentes façons. C'est d'abord un club dans lequel les femmes... viennent en toute confiance s'inspirer, respirer, partager des bonnes pratiques dans lequel on n'a rien à vendre. En fait, c'est une association, donc on est avec mon board, Karine, Carole et Victoire, on est bénévole pour cette activité-là dans laquelle on croit fondamentalement. on croit qu'il faut ouvrir des portes et surtout il faut laisser l'échelle derrière nous pour que la porte reste ouverte.
Ouais.
Et continuer à casser les plafonds de verre. On le fait en rencontrant des speakers qui sont influents dans leur domaine et dans leur métier, mmh. en ouvrant des portes, parce que quand on arrive à rencontrer dans un dîner quelqu'un qui est notre contact, plus deux ou trois ou quatre, ou alors que l'on a juste l'occasion d'écouter dans des podcasts, mais à qui on n'a aucun accès, ben, tout ensemble, nous, on ouvre des portes et on donne accès à des personnes impressionnantes et inspirantes, et qui sont réellement disponibles pour échanger. Il va toujours ressortir quelque chose de ces dîners avec ces speakers qui nous ouvrent vraiment des univers extrêmement forts. Les deux derniers, en juin, on a reçu François-Henri Benamia, qui est l'ancien CEO d'Audemars Piguet et le nouveau créateur de Noble Merchant, Honorable Merchant, excuse-moi François, je me trompe de terme, qui réinvente complètement le monde du luxe. Il a énormément de courage et du talent, évidemment. Et il donne une autre façon de voir un luxe plus durable et une interconnexion entre les sept piliers de sa nouvelle marque, qui va permettre en fait à chacune des entités de progresser fortement ensemble. On avait reçu en mai Michael Malaper et Carlos Pujol, qui sont deux architectes d'intérieur qui, dans leur domaine, sont des références extrêmement fortes et surtout qui sont des gens qui développent une sensibilité, une visibilité et un art de recevoir et de vivre dans l'hospitality qui est très disruptif, je crois, pour chacun d'eux à leur façon. En septembre, on a reçu six acteurs majeurs de l'IA, dont par exemple Enric Lopez qui porte chez Microsoft tous ces sujets-là, dont un des cofondateurs de Copilot Works, dont Christophe Olnet, tout ça animé par Carole Sénéchal qui est dans notre board et qui est Madame Tech chez Féminin Pluriel, Anna Perret qui était... En fait, pour contextualiser, en septembre, ce dîner, il se fait dans la suite d'un hackathon qui a été initié il y a 2 ans par EY et Microsoft, dont on est partenaire depuis le début, en étant dans les jurys, donc en désignant les équipes vainqueurs des sujets sur... il n'y a que des femmes, mm-hmm. sur l'utilisation d'IA générative. Mm-hmm. Donc on apprend, nous aussi, beaucoup. Et le prix que l'on remet, c'est de leur ouvrir les portes de nos réseaux en recevant les lauréates lors d'un dîner.
D'accord.
Et donc ce dîner de septembre autour de l'IA était notre deuxième dîner prix du hackathon. Et donc on recevait parmi les speakers Anna Perret qui faisait une démonstration d'un petit sujet IA interactif. C'était une des lauréates et elle était cette fois-ci côté panel et côté speaker. Donc c'est la force de réseau comme Féminin Pluriel, d'avoir de l'influence ensemble et une vraie sororité. On dit souvent que les femmes ne savent pas s'entraider. Moi, je ne suis pas d'accord. Mm-hmm. Je suis extrêmement fière de la réussite d'autres femmes, mm-hmm. de mes amies femmes. Alors, et hommes, évidemment, bien sûr, aussi. Mais plus on sera nombreuses à réussir et à s'entraîner les unes avec les autres.
Oui, s'entraider.
Et puis, quand on se voit et être entouré de personnes qui réussissent, qui sont excellentes dans leur domaine et qui peuvent partager, quels que soient les moments de vie, et être là les unes pour les autres, je crois que ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a le prix du temps et de la confiance.
D'accord, mais merci pour ces mots. Je vais finir avec des petites questions rapides, où tu me réponds très 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 rapidement.
J'aime bien les questions signatures des podcasts, surtout quand on ne les a pas lues à l'avance.
Voilà, c'est très spontané. Alors, si tu pouvais réinventer un lieu emblématique de Paris ou au Luxembourg ou ailleurs, lequel tu choisirais ?
Alors, j'aurais bien dit le Grand Palais, mais ça a déjà été fait. Dans les lieux emblématiques de Paris, je crois que j'aimerais réinventer d'anciennes imprimeries. Lieux qui ont été des lieux d'artisanat et qui peuvent devenir des lieux aujourd'hui où l'on reçoit et où l'on vit. Par exemple, une ancienne fabrique d'instruments de musique ou un atelier luthier, un lieu qui a compté
ouais.
et qui a besoin d'une nouvelle vie et qui a été complètement oublié. Ouais, un lieu fort oublié, j'adorerais ça.
D'accord. Il y a quelques lieux comme ça à Bruxelles qui ont été réhabilités. Un lieu ou autre chose qui t'inspire au quotidien ?
La Provence, évidemment.
Oui, c'est ce que j'ai cru
comprendre. La France, que ce soit les rues de Arles, que ce soit les ruisseaux et les galeries de l'Île-sur-Sorgue, que ce soit les musées d'Avignon, que ce soit les campagnes, les senteurs, la lumière, les pierres. je suis née en Provence et j'y ai mon cœur, j'y ai mon sens. Mmh. C'est ma région forever.
Et un endroit où tu te sens toujours bien?
Peut-être des abbayes en Provence.
Ah ouais.
Il y a des endroits où je vais systématiquement me poser, que je vais observer. Je parlais de Montmajour, c'est un endroit où je me sens heureuse. Le musée Calvet à Avignon, j'ai un lien particulier avec cet endroit.
Ouais.
Alors peut-être aller à un endroit, la galerie des sculptures, face au grand escalier du musée Calvet.
D'accord. Un matériau que tu adores, travailler.
Alors, je ne fais rien moi-même
Non.
à la main.
Oui.
En revanche, j'aime beaucoup le noyer et j'aime les bois un peu spécifiques. J'ai beaucoup de recherches en ce moment sur comment travailler l'olivier en architecture d'intérieur. Je dirais le noyer.
D'accord. Un architecte ou un designer que tu admires?
Là, je suis dans les théories Sotsas, donc je ne vais pas soutenir la création contemporaine directement, mais en tout cas, dans la modernité, Ettore Sottsass, Jean Prouvé, et pas que pour le dialecte, pour le dialogue. Et aujourd'hui, en fait, je suis hyper heureuse d'être dans une période dans laquelle il y a énormément de création. Et donc, il y a énormément de designers juste fantastiques, et ils sont tous, allez, Mathieu Lehaner, parce que c'est une chouette personnalité, que la femme olympique, ça reste quand même quelque chose d'important, que cette vase qui est au-dessus de Paris, elle a fait
Ah
rêver les
ouais.
Français, et qu'elle va
Ouais,
continuer.
magnifique.
Et très récemment, dans ce que j'aime dans son travail, à Chaumont-sur-Loire, il y avait sa sculpture sur laquelle la pluie vient tomber et qui est sa réinterprétation de la Loire. Donc, allez, Mathieu Lehaner.
Un courant artistique.
Memphis, parce que je suis dans les Torres Otsas.
Un livre ou un film ou une œuvre d'art qui nourrit ta créativité.
Alors, il y en a beaucoup,
Ouais.
mais parmi ce que je lis en ce moment, il y en a deux que j'ai beaucoup aimé. Il y a la collection Invisible de Stefan Zweig, qui est une nouvelle extrêmement émouvante, et je ne peux pas trop en parler parce que c'est bien de la découvrir, et
D'accord.
on ne comprend qu'à la fin. Et j'aime bien la noter quand voilà. La noter et la partager, c'est une chose assez forte chez moi, et c'est quelque chose qui m'a marqué ces dernières semaines. Un des derniers ouvrages sur Soulages aussi, qui est fantastique. Et puis les livres de photos de Marguerite Bornhauser, mais aussi les ouvrages qui sont édités par Mods, petit clin d'œil du coup pour Olivia et Marie. Elles proposent de très beaux ouvrages d'art de photographes, et c'est très inspirant.
D'accord. La couleur qui te définit le mieux.
Ah bah les bleus.
Ouais.
Je vis en noir et blanc, enfin je m'habille qu'en noir et blanc, mais le bleu, toute la palette de bleus, tous les bleus. J'adore les terracottas, les briques et safran, mais fondamentalement, je suis vraiment Madame Bleue.
D'accord. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a
Il y a
une
quelqu'un
histoire?
qui rêve d'un ciel gris, on rêve tous d'un ciel bleu, d'un rayon de lumière. Et la palette de bleu est celle qui me rend fondamentalement la plus heureuse.
D'accord. Le mot qui résume le mieux l'esprit de l'atelier de Compostelle.
Ah, de l'audace.
C'est bien, audace. Est-ce que tu as je sais pas, une passion pour une déco ou un objet qui est peut-être un peu désuet ou kitsch, mais que tu adores?
Mon métier contemporain, alors le côté kitsch, pas forcément.
Mais quelque chose, voilà, où
J'aime les
tu...
lampes.
Ouais.
J'adore les lampes. J'ai plein de lampes. Les lampes à poser, j'en ai
Ouais.
énormément. J'aime énormément ça. J'aime les miroirs. Mais pas forcément kitsch.
D'accord. Mais oui. Et puis les lampes, ça crée une ambiance aussi. C'est très joli.
Exactement.
Est-ce qu'il y a une citation qui te suit au quotidien?
De notre mieux. Ça me vient des scouts. Et on ne peut pas tout donner tous les jours, mais on doit donner le meilleur de chaque journée. On doit donner le meilleur de ce que l'on est. Il faut donner pour recevoir, et faire de son mieux, je crois que c'est une exigence quotidienne, quel que soit le domaine de la vie.
D'accord, c'est vrai. Et enfin, ça c'est ma question un peu signature. Qu'est-ce qui te fait sourire aujourd'hui, ou en ce moment, au sens propre du terme?
La beauté. Le pouvoir s'échanger, se rencontrer. Je suis ravie qu'on passe ce moment ensemble. Ça. Il fait très très froid, donc le sourire n'est pas facile.
Oui, il fait pas
Mais ça
très
me fait
chaud.
sourire. On est dans un lieu qui est magnifique.
Ouais.
Et je crois, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, que la beauté sauvera le monde. En tout cas, la beauté
Ouais,
sauve
c'est
nos vies
vrai.
dans chacun de nos jours. Et le beau est extrêmement central dans ma vie, dans mon travail, dans la création, la passion, le beau. Et ce qui me fait sourire, ouais, enfin, la beauté. Derrière à toi, il y a une œuvre magnifique. Et ouais, le beau me fait sourire.
Merci Amandine.
Merci Isaline et merci à tous pour votre écoute.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité, qu'il vous a inspiré et donné envie d'en savoir encore plus sur l'atelier Compostelle et l'univers d'Amandine et de son équipe. Je vous invite à retrouver toute leur actualité sur leur site ateliercompostelle.com, leur compte Instagram atelier-compostelle, ou encore je vous invite à pousser la porte de leur bureau aux 3 rues de Montmorency dans le 3e arrondissement de Paris. J'étais très heureuse d'interviewer Amandine. Elle m'a transmis avec poésie sa passion pour le beau et son envie profonde de mettre en lumière les artisans et artistes qui travaillent sur les projets de l'atelier et ainsi créer des ponts entre les uns et les autres. J'ai découvert une femme animée par son métier et ça fait du bien, tout simplement. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a donné envie de me lancer à nouveau dans un projet d'éco ou de rénovation. Pour me suivre dans mon univers, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole, Isaline avec un Z, ou encore sur le compte Instagram dédié au podcast J'aime quand vous souriez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.